ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces gens qui font la différence aujourd'hui le 7 octobre. Eh bien, je reçois en studio Lili Ana Pereza, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal. De 2009 à 2012, Madame Pereza dirigeait l'ensemble des activités de One Drop. Elle avait auparavant assumé la direction générale de plusieurs organismes communautaires et humanitaire, dont Les Petits Frères des Pauvres de 1995 à 1999, Le Y des Femmes de 1999 à 2004, Amnesty International France de 2005 à 2006. Elle a d'ailleurs, son engagement lui a valu vraiment plusieurs prix, dont notamment pour l'action humanitaire, de nombreux distinction, pardon, dont le prix du mérite du Conseil canadien des ingénieurs en 2000 et un doctorat honoris causa décerné par l'Université de Montréal en 2009. Pour toutes ces belles reconnaissances et les services rendus à la communauté, alors nous la recevons en studio. Alors, bienvenue chez nous.
Merci.
Je suis très heureuse de vous accueillir parce que des femmes, c'est toujours ça nous, vraiment, que des femmes réussissent à arriver dans leur carrière et toucher le cœur, toucher l'âme des gens. On se dit, c'est quoi? C'est des anges envoyés du ciel qui font beaucoup de choses pour ceux qui en ont moins. Et votre parcours est assez étonnant. Alors, j'aimerais connaître un petit peu... Bon, vous venez, vous avez eu votre enfance à Laval, mais vos parents, ils ne sont pas québécois. Et... Alors, racontez-moi un peu.
En fait, ma mère est québécoise.
Oui.
Elle vient de Charlevoix. Elle a rencontré mon père, qui est d'origine yougoslave. À la fin, mon père est arrivé au Québec à la fin des années 50. Donc, je vis d'une mixité culturelle à mi-croate et mi-québécoise.
Alors, et vous parlez la langue?
Oui, je l'ai appris, pas en famille, parce que mon père, lorsqu'il est arrivé au Québec... le français était sa septième langue. Alors, à la maison, il a appris le français avec moi. Il parlait en anglais à ma mère. Alors, c'est lorsque je suis allée en Croatie, moi-même, visiter les membres de la famille, que je l'ai appris en immersion complète et totale.
Oui, parce que ça se faisait... c'est vrai que... Mais vous l'avez appris rapidement?
J'ai passé, lorsque j'avais 17 ans, 2 mois, un été complet, et ça m'a... permis de développer. Ensuite, je suis retournée de façon très, très régulière. À l'époque, c'était la Yougoslavie, ensuite la Croatie.
Oui, c'est ça.
Et là, j'ai pu m'adapter et apprendre un peu le langage local. Je ne suis pas parfaitement bilingue croate, mais je me débrouille très bien.
Et qu'est-ce que vous ressentez au niveau de vos racines? Est-ce que vous êtes une vraie moitié-moitié? Est-ce que vous, le fait d'avoir été dans le pays de votre père, vous êtes dit, ben voilà, il y a une partie de moi qui est là. Comment vous sentez-vous?
En fait, la première fois que je suis vraiment allée en Yougoslavie avec mon père, j'avais 11 ans. Et j'ai eu un choc immense parce que la famille de mon père vivait dans un petit village, dans un pays qui, à l'époque, était communiste, qui n'avait pas l'eau courante dans la maison, pas le téléphone, le courant de façon intermittente. Et je ne comprenais pas pourquoi ils étaient comme moi et qu'ils n'avaient pas accès aux mêmes services qu'on avait au Québec. Donc, ça m'a beaucoup choquée. Et ça a été le premier choc. Le deuxième, c'est aussi le fait que en termes de communication, que je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Et comme jeune ado, je suis revenue au Québec, puis j'ai voulu oublier un peu cet épisode-là parce qu'il ne m'avait pas nécessairement marqué de façon positive. Puis je me suis dit à 17 ans, mais si je n'y retourne pas, je ne vais jamais y retourner. Et là, je suis tombée en amour avec le pays, avec la culture, avec les membres de ma famille. Et j'ai fait les efforts d'apprendre un peu plus la langue et d'y retourner de façon régulière. Alors, à l'origine, je me suis toujours considérée très québécoise canadienne, mais j'ai toujours eu un nom différent. J'étais toujours identifiée avec mon nom de famille comme venant d'ailleurs, alors que je me considérais beaucoup comme étant une grande Montréalaise. Et j'ai adapté cette double identité et j'en suis excessivement fière.
Alors, vous avez dit quelque chose d'important. Quand je suis allée à l'âge de 11 ans, je trouvais ça un peu triste et décevant. Est-ce qu'on peut dire que c'est à cet âge-là que vous avez eu votre éveil pour aider les gens? Parce que, bon, vous viviez à Laval, je pense que vos parents étaient aussi portés sur l'entraide et l'aide aux autres. Mais est-ce qu'on peut dire que ce voyage-là vous a éveillé?
Complètement et totalement. Pour moi, ça a été un éveil à ce que j'ai appelé l'injustice sociale. Je ne trouvais pas ça juste. Qu'ils n'avaient pas accès aux mêmes choses que moi. Puis c'est là que j'ai réalisé que c'était le cas, pas seulement là, mais ailleurs dans le monde. Et donc, ça m'a... Toutes les questions d'inégalité sociale ont commencé à émerger dans ma tête d'adolescente. Et c'était volontaire que j'aille faire des études en génie parce que je voulais voir comment je pouvais contribuer à y remédier.
Alors, adolescente, vous êtes comment au retour? Est-ce que vous êtes tout seul dans un coin à étudier fort, rebelle? Vous êtes comment comme petite fille?
J'étais plutôt sage, peut-être un peu garçon manqué, plus axé sur les sports et qui lisait beaucoup. Alors, j'étais dans mon univers, dans ma bulle de livres, de lecture. Je suis allée à un collège privé pour filles seulement, donc j'ai adoré ça. Ça m'a permis de développer mon leadership comme jeune fille, une belle opportunité. Donc, j'étais assez sage.
Assez sage quand même.
Oui.
Vous avez dit les études en génie, c'est ce que vous avez fait d'ailleurs. Vous saviez ce que vous vouliez faire, petite, déjà à l'adolescence?
Déjà au secondaire, j'avais eu une prof au collège où est-ce que j'allais qui avait été faire une année d'enseignement au Mali et elle nous avait montré des photos. Et là, ça m'avait marqué, je voulais aller en Afrique. Ça, c'était certain. Déjà à partir de secondaire 3. Comment faire quoi, je ne le savais pas trop, mais c'est sûr que l'accès à des services de base, pour moi, en faisant un cours de génie, venait connecter ces deux choses-là. Donc, l'idée germait, mais n'était pas nécessairement claire en termes de voie pour s'y rendre.
Je lisais dans votre curriculum vitae qu'il y avait aussi l'envie de bâtir des clôtures pour ces gens-là, vraiment physiquement au départ. Hein, c'était une entraide humanitaire, mais aussi physique, de dire il faut qu'ils aient des clôtures, il faut qu'ils aient des... C'était ça.
Et c'est sûr que tout ce qui est lié au génie, c'est dans le concret. Là. On veut construire des puits d'accès à l'eau, on veut faire des choses concrètes. On réalise seulement en cours de chemin que le bâti est une chose, mais que ce qui se passe à l'intérieur et les relations humaines sont aussi, sinon plus, importantes.
Vos études polytechniques, tout ça, ça se passe comment? Parce que vous arrivez en plein drame, je pense. Étiez-vous là en 89?
Non, j'avais terminé mes études.
Terminer.
J'avais terminé mes études, mais je connaissais plusieurs des jeunes filles qui parce qu'on n'était pas nombreuses à Polytechnique comme femmes. C'est encore le cas, malheureusement. Mais dans mon temps, moi, j'ai fait mon diplôme en génie électrique. Il y avait 5% de filles en génie électrique. Au total, on devait tourner autour de 15% à travers tous les génies. Alors, c'est sûr qu'on se connaissait, on se voyait.
Donc, vous veniez juste de terminer.
Je venais de terminer.
OK. Vous étiez où, cette journée-là?
Écoutez, je m'en souviens, comme tout le monde, je pense, on a tout le temps une mémoire vive de ces instants-là. J'allais au concert de l'Orchestre symphonique de Montréal avec ma mère. Et lorsque je m'apprêterais à rentrer dans le stationnement de la Place des Arts, j'ai entendu à la radio qu'il se passait quelque chose à Polytechnique. Et tout le temps du concert, je n'ai pas pu me concentrer. Bon, à cette époque, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Il faut se remettre dans ce contexte-là. On ne pouvait pas sortir et se demander qu'est-ce qui se passait. Et c'est seulement lorsqu'on est rentré à la maison que j'ai réalisé l'ampleur de ce qui s'était passé. Et c'est sûr que là, on commence les téléphones, on veut savoir qu'est-ce qui arrive à l'un et à l'autre. Ça a été un véritable choc. Et à ce moment-là, je travaillais déjà pour Bell Canada.
C'est ça. Et notamment, ça aurait pu être vous aussi, parce que vous veniez de terminer. Vous en connaissiez quelques-unes, des jeunes filles.
Et ce que je réalisais, c'est que le tueur, ce qu'il visait, c'était moi. C'était celle qui, disait-il, prenait la place dans la société. Donc, j'avais complété mes études, j'étais déjà sur le marché de travail, donc je me sentais personnellement visée. Et comme féministe, j'avais du mal à comprendre qu'il y avait encore, malheureusement, dans le conceptuel, intellectuel de quelques personnes, encore ces écarts-là. Pour moi, c'était inconcevable.
Donc, c'est venu vous chercher.
Personnellement, oui.
Oui, oui. Une femme exceptionnelle, bon, vous commencez des études. Là, vous êtes à Bâle, ça se passe bien, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui vous manque encore. En regardant votre parcours de carrière, il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait là.
Il faut dire qu'à la fin des années 80, lorsque j'ai terminé mes études, il y avait une récession importante. Donc, trouver un boulot, c'était pas évident. Et trouver un boulot d'ingénieur à l'international, lorsqu'on était jeune diplômé, c'était impossible. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça que Bâle a été une excellente école pour moi. Mais ce 6 décembre 89 m'a fait réaliser que la vie était trop courte et qu'il y a bien des choses qui peuvent nous arriver. Donc, en mémoire de ces 14 jeunes femmes, je me suis organisée pour réaliser mon rêve, qui était d'aller travailler en Afrique. Et j'ai bien compris que c'était pas comme ingénieur que je pouvais le faire en premier lieu. Alors, j'ai cherché d'autres options, une voie d'évitement, et c'est l'enseignement en sciences.
En chimie, je pense.
Et en physique cours, et en mathématiques qui m'a permis de le faire.
Vous l'avez trouvé comment, cette idée-là, de dire, ben, je peux pas, mais je vais faire ça, je vais enseigner. Comment vous avez trouvé l'idée?
Mais là encore, je nous ramène à l'époque où est-ce qu'il n'y avait pas Internet, et ce que c'était pas évident d'essayer de trouver les différentes alternatives. Il y avait un livre qui s'appelait « Le Québec et le monde », où est-ce qu'on présentait toutes les formes différentes d'implication en coopération internationale. Et j'avais vu qu'Entraide universitaire mondiale du Canada offrait à des jeunes la possibilité d'aller enseigner dans des pays en voie de développement. Puis je me suis dit, bon, ben, je vais commencer par ça. J'ai une valeur ajoutée, puis on verra après pour la suite.
Alors, on fait une pause musicale. Michel Rivard, Le goût de l'eau.
Écoute, mon amour, écoute comme c'est beau. Ce roulement de tambour qui nous frôle la peau, c'est le son de la pluie sur le toit de l'auto. Oh, le goût de l'eau, j'ai le goût de l'eau, j'ai envie de ta bouche, de cet orage tendre où nos corps se touchent, où nos désirs se répandent dans le ruisseau farouche. Oh, le goût de l'eau, roue coulante, miroitante en fine gouttelette sur le doux de ton ventre, balbutiante, délirante. Oh, le goût de l'eau. Du ciel, sur le bout de la langue, c'est un peu d'éternel. C'est le chant des bateaux, le vent qui les appelle. Oh, le goût de l'eau. Dans la soie des rivières, sous le sel de la mer, en perles vivantes, dans les crins de la terre, et sous la nappe dormante de ce lac en hiver. Oh, le goût de l'eau. Dans la transparence de l'aquarelle, quand elle coule sur le dos de l'arc-en-ciel, dans les mots des oiseaux, sur le bleu de leurs ailes. Oh, le goût de l'eau. C'est beau, ce n'est pas le moteur, ce n'est pas la radio, ce sont des larmes d'ange sur le toit de l'auto. Oh, le goût de l'eau, j'ai le goût de l'eau, j'ai envie de toi, J'ai envie d'apprendre ce que je sais déjà, de me laisser couler jusqu'au creux de tes bras. Oh, le goût de l'eau, j'ai le goût de l'eau, que l'orage gronde, qu'une averse de tendresse inonde le monde, et que flotte notre amour sur les eaux profondes. Oh,
alors, je suis contente de bien le prononcer parce que c'est un petit peu comme le lituanien. Donc, Liliana Pereša.
Voilà.
Avec le S, on le prononce comme ça. C'est tout à fait ça?
Tout à fait.
Ah, bah, très bien. Alors, on était rendu dans vos débuts. Donc, vous décidez finalement d'y aller dans votre rêve, d'aller en Afrique donner des cours parce que, bon, c'est ça. C'est très bien belle. Mais ça ne vous comble pas totalement. Puis là, on revient. C'est vrai que c'était économiquement difficile de partir à l'international à l'époque. Et vous décidez de le faire. Vous faites le pas.
Oui, je pars comme volontaire. Alors, les conditions de travail étaient minimes, mais c'était un immense plaisir que de découvrir le Malawi. Et je remercie Madonna, d'ailleurs, d'avoir adopté un enfant là-bas, parce que maintenant, tout le monde sait où est le Malawi. Voilà. C'est un petit pays en Afrique de l'Est qui est très pauvre. C'est un des plus pauvres d'Afrique, mais qui est magnifique. Où est-ce que j'ai enseigné? Dans une école secondaire mixte en zone rurale, à des garçons et des filles qui avaient à peu près le même âge que moi. Et c'est ça qui est assez phénoménal, parce que c'était l'année préuniversitaire que j'enseignais. Et pour les jeunes, aller à l'école était un privilège. Un enfant sur 10 se rendait jusqu'au secondaire et souvent, il sautait des années parce que les parents n'avaient pas les moyens de payer le petit peu de frais de scolarité. Donc, c'était une école où est-ce que les gens étaient pensionnaires aussi. Alors, il y avait une belle communauté qui vivait là.
Comment vous êtes accueillis? Justement, vous avez le même âge que ceux à qui vous donnez les cours. Comment vous êtes accueillis?
J'ai quelques anecdotes par rapport à ça, parce qu'à l'époque où je suis allée, c'est un autre choc, c'était la dictature de Banda. Alors, c'est un pays qui était oppressé, et les femmes étaient des citoyens de seconde zone. Et donc, l'habitude était que les jeunes filles devaient s'agenouiller devant leurs professeurs pour leur adresser la parole. Je me suis rapidement rebellée contre cela dans la première semaine.
La féministe que vous êtes.
Et j'ai été convoquée par le directeur de l'école pour me faire dire que culturellement, c'était quelque chose que je devais accepter. Et j'ai dit, ça, c'est pas quelque chose de culturel. C'est quelque chose où est-ce qu'on reconnaît pas l'égalité de l'homme et de la femme. Et donc, j'ai tenu tête et j'ai obligé mes étudiantes à rester debout devant moi.
Bravo!
C'est ce qui a bien été. Malheureusement, au Malawi, lorsque j'y étais, la vague épidémique du sida a fait les siennes. Mmh. Et j'ai perdu plusieurs de mes étudiants qui sont décédés du sida depuis. Mais j'ai le bonheur, grâce aux réseaux sociaux que je remercie, d'avoir des nouvelles de plusieurs d'entre eux encore, même si ça fait presque 20 ans maintenant, et de savoir qu'ils occupent maintenant des positions importantes. Il y en a une qui est chef du service infirmière de l'hôpital universitaire du pays. Donc, j'ai une dizaine de mes étudiants qui ont été acceptés à l'université. C'était une première dans cette école secondaire mixte, rurale, publique, d'avoir autant d'étudiants admis à l'université par la suite.
Alors, donc, vous restez combien de temps?
Je suis restée un an au Malawi. J'avais pris un congé sans solde, sabbatique. Vous savez, les ingénieurs sont très cartésiens. Je voulais m'assurer que cet essai-là, avant de démissionner de mon poste de Bell Canada, serait concluant. Alors, après mon retour d'un an, j'ai décidé de lâcher mon job d'ingénieur à chez Bell Canada et de me lancer dans l'aventure de la coopération internationale.
Et là, ça y est, là. Une fois que vous avez touché à ça,
c'est une drogue.
Vous avez ça dans votre cœur et dans votre âme. Et d'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure, parce que moi, l'injustice, je ne pouvais pas. tout au long de votre carrière, c'est l'injustice faite aux femmes aussi, beaucoup, mm-hmm.
aux enfants.
Et là, à Centraide, c'est extraordinaire. On va en parler, bien sûr, un petit peu plus tard. Mais c'est des milliers de familles que vous aidez avec tous ces organismes, 370 organismes qui sont là et qui, je veux dire, qui seraient complètement disparus si Centraide n'existait pas. Après, il y a... Dans l'ordre, il y a... J'ai vu dans les notes, puis je trouvais ça marrant, puis je vais vous le lancer comme ça. Vous vouliez au début être journaliste de guerre?
Oui. Lorsque j'étais au secondaire, j'avais cet intérêt pour... J'étais forte en français, j'avais vraiment un intérêt, puis je voulais aller explorer des mondes inconnus. Et les conflits, c'était quelque chose qui m'interpellait beaucoup, probablement parce que la Yougoslavie, les Balkans, il y a une histoire très forte dans ma famille... dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale.
Ouais.
Et donc, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappée et ça, j'avais un intérêt. Mais j'ai réalisé plus tard que je serais plus utile autrement à travailler avec les communautés puis les populations vulnérables plutôt qu'à raconter une histoire.
Oui, c'est ça. Vous dites, je serais plus active et que journaliste, ça vous plaisait moins à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas assez d'action.
Il n'y a pas assez d'interaction, en effet.
C'est ça. Alors, après, vous revenez un an et... Vous dirigez comment? Vous dites non à votre job à Bell?
Oui, tout à fait. Puis j'ai dû, entre guillemets, vendre mes compétences et mes connaissances et de démontrer que même si j'étais une ingénieure, je savais aussi faire de la gestion de projet. Et donc, j'ai approché spécifiquement Oxfam Québec qui avait ce poste de conseillère en gestion pour une organisation locale qui s'appelait Burkina Secours, qui existe toujours d'ailleurs, qui faisait un merveilleux travail d'évacuation sanitaire. Donc, c'est l'équivalent du 911 qui était mené par une ONG, une OSBL dans ce pays-là.
Mais vous restez ici, vous voyagez, vous
non.
Avez encore...
OK, je repars. Je suis revenue...
Vous restez combien de temps, finalement?
À peine 6 mois.
OK.
OK, suis repartie en janvier 92 pour le Burkina Faso pour 2 ans, okay. Avec Oxfam.
Alors, avec Oxfam, comment c'était... Votre aventure là-bas?
C'était formidable. J'ai adoré découvrir l'Afrique de l'Ouest parce que je travaillais dans toute la sous-région du Bénin, au Mali, au Niger ou en Côte d'Ivoire. Les Africains, les Burkinabés sont excessivement accueillants. Burkina Faso, ça veut dire le pays de l'homme intègre. Mmh. Donc, c'est une culture très ouverte et très accueillante. Le travail que je faisais était fascinant. J'ai d'ailleurs travaillé sur un projet que j'ai adoré qui s'appelle la mobilette ambulance, qui existait depuis 7 ans dans un petit village, Moussoudougou, et dont le fondateur de Burkina Secours avait été l'instigateur. Et je voyais comme ingénieur que cette mobilette ambulance répondait aux besoins de la communauté parce que c'était une simple technologie que la communauté l'avait adaptée et adoptée complètement et totalement, et que ça répondait à leurs besoins d'évacuation sanitaire. Alors, avec des partenaires financiers, on a trouvé le moyen d'en construire 200, 250 autres.
Parlez-moi de ce que c'est la mobilette.
Alors, c'est une... pour les vieux comme moi, c'est une P50. C'est vraiment une mobilette qui était transformée sur laquelle on avait installé un brancard derrière. Alors, le conducteur de la mobilette, qui était aussi le mécanicien, veillait à prendre les personnes, souvent les femmes enceintes, parce que une des raisons pour lesquelles on avait beaucoup d'évacuations sanitaires, c'est qu'il y avait des problèmes à l'accouchement ou c'était des personnes blessées. Donc, prenait les personnes dans les villages isolés parce qu'il n'y a pas des routes partout, ou bien encore pendant la saison des pluies, il y a plusieurs routes qui ne sont pas accessibles, et amenait les blessés ou les femmes enceintes vers un dispensaire ou un hôpital avec cet outil formidable adapté à la réalité du terrain.
Alors, il y en a encore en ce moment? Est-ce que ça fonctionne?
Écoutez, c'est ça qui est formidable. Moi, pendant que j'y étais, on a lancé une chaîne de production pour 200 mobilettes ambulances qu'on a distribuées, puis maintenant, il y en a plus de 600 ou 700 dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, ça s'est envolé de par lui-même. Le projet a pris un envol. C'est fabriqué aussi par des petites entreprises privées. Donc, ça répond à un vrai besoin.
Alors, utile, le cœur sur la main aussi. Les femmes, comment c'est? Parce qu'on a parlé du Malawi. Là, est-ce qu'il y a un travail que vous sentez que vous devez faire sur place? C'est différent et c'est comment?
Mais c'est certain que les femmes n'ont pas tous les mêmes droits. Donc, j'ai malheureusement été témoin de jeunes femmes qui sont décédées suite à l'excision. Ah, c'était dans un pays où est-ce que les pratiques traditionnelles sont encore malheureusement très présentes. Donc ça, ça a été pour moi aussi un éveil à une réalité que j'avais pas rencontrée auparavant. Mm-hmm. C'est certain aussi que les difficultés d'accouchement, toute la question de la santé maternelle, le nombre de femmes qui meurent à l'accouchement, très, très important. Alors, j'ai poursuivi mon expérience avec, par la suite, un projet d'entrepreneuriat féminin, encourager les femmes à démarrer leurs petites entreprises, parce que, on le sait, c'est les femmes qui nourrissent l'Afrique. Elles sont au travail dans les champs.
C'est les mères porteuses, voilà. Les mères... À tout le point de vue, d'ailleurs.
À tous les points de vue. Donc, les accompagner pour transformer l'économie informelle en économie formelle. Donc, qu'elles ne vendent pas seulement quelques tomates au marché, mais qu'elles s'organisent en coopérative.
Elles sont très fortes entre elles aussi.
Les tontines sont très présentes.
C'est des moyennes entreprises. Hein,
tout à fait.
Qui pourraient en montrer à beaucoup d'hommes, d'ailleurs.
Et elles se démerdent avec vraiment peu de moyens.
Ah oui, oui.
Et elles sont très solidaires. Très solidaires les unes des autres.
Et avant qu'on aille à la pause musicale, et comment vous étiez perçue à faire ce travail-là, à parler avec elles? Comment elles vous voyaient?
J'ai toujours fait très attention quand je rencontre les gens de m'adapter à leur réalité. Et malheureusement, je n'ai pas développé la langue, le djoula, suffisamment pour pouvoir communiquer dans leur langue maternelle. Mais je m'assurais d'être en communication, à bien prendre les bébés dans mes bras, à comprendre leur réalité, à m'asseoir à terre avec elles. Donc, je pense qu'un immense respect pour ce qu'elles arrivent à accomplir avec les moyens qu'elles ont.
On fait une pause.
Merci.
Gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Nous sommes en direct, mesdames, messieurs, avec Liliana Perecha. Elle est présidente et directrice de Centraide du Grand Montréal. Alors, vous devez avoir plus de place sur votre passeport, vous.
J'ai plusieurs passeports.
Plusieurs passeports, oui. Oui, c'est ça, parce que
j'ai
vous
un passeport
pas.
Français, un passeport croate et un passeport canadien.
En plus, vous avez trois passeports.
C'est ça.
C'est quelque chose, ça.
C'est utile.
Ça. Alors, donc, on est rendu au Burkina Faso. Et là, ça se termine, cette belle aventure. On parlait des femmes, on parlait des différences que vous aviez. Vous prenez votre valise, vous revenez à Montréal, parce que j'ai l'impression que Montréal, c'est vraiment votre fort. Hein?
Tout à fait.
Votre socle, votre fort. Et là, vous repartez, mais cette fois-ci, dans le pays de l'origine de votre père.
Oui. Alors, pendant que j'étais en Afrique, le conflit a démarré en ex-Yougoslavie. Le pays a éclaté. Et je me suis mis à rechercher spécifiquement une mission pour aller travailler là-bas. Donc, je suis revenue quelques mois au Québec avant de repartir en Bosnie pour CARE, qui est plus spécifiquement CARE Autriche, qui m'a accueillie. Et j'étais basée à Split, mais ma zone d'intervention était la Bosnie centrale.
OK. Là, ça vient vous chercher davantage. C'est une partie de votre sang, votre 50%. Et ce qu'on a vu dans les journaux, j'imagine que c'est rien que de le voir sur place, mais c'est épouvantable là-bas. Là.
Tout à fait. J'ai vu les horreurs humaines, j'ai vu la bêtise humaine, jusqu'à quel point l'homme, puis je dis bien l'homme, peut perdre la raison. J'ai travaillé sur des projets, dont une clinique pédiatrique gynécologique mobile qui allait de camp de réfugiés en camp de réfugiés, soigner les femmes qui avaient été victimes de viols. Et on utilisait le prétexte de l'examen de santé physique pour leur permettre d'en parler et d'avoir des groupes d'échanges et de discussions. Et avec le temps, elles ont demandé d'avoir leurs enfants qui pouvaient être accueillis et vus par un médecin. Donc, c'était un défi important parce qu'on souhaitait avoir que des femmes dans cette clinique-là. Une gynécologue, une infirmière, une psychologue pour qu'elles se sentent en confiance.
Oui, oui, oui. C'est normal,
c'est ça.
Alors, c'est dans l'ordre des choses.
Absolument. Et donc, j'ai vu aussi qu'est-ce qui s'est passé lorsque les enclaves de Srebrenica et Zepa sont tombées, à savoir tout ce flux humain de femmes et d'enfants qui avaient marché pendant des jours et se retrouvés dans des zones plus sécuritaires et qui étaient carrément des zombies. J'avais un avantage concurrentiel, c'est que je parlais la langue, mais je ne le disais pas. Alors, lorsque j'étais au checkpoint, où est-ce que j'avais des échanges ou des discussions avec des officiels, je ne le démontrais pas, mais lorsque je parlais avec les gens qui étaient en besoin, là, je parlais croate.
Ça, c'est digne des meilleurs James Bond.
Tout à fait.
Non, mais c'est extrêmement brillant de votre part.
Ah oui,
C'est-à-dire que vous faisiez comme si vous ne compreniez pas la langue pour avoir plus d'informations possibles.
Absolument.
Pour pouvoir, après, travailler mieux, en profondeur, et savoir exactement ce qui se passait.
Et des fois, l'innocente, je ne comprends pas ce que vous dites, donc je passais dans des zones où est-ce que normalement j'aurais pas dû aller.
Quels étaient les mots de réconfort de ces femmes-là? Parce que c'est sûr que ça vient nous chercher, vous me parlez de ces femmes durant la guerre, comme si c'était pas assez affreux. Il y a toujours beaucoup de viols, et là vous étiez à les recueillir, à faire en sorte qu'elles retrouvent une certaine dignité. Quels étaient les mots pour les rassurer?
Honnêtement, je crois pas qu'il y a de mots. Je crois qu'il fallait qu'elles vivent leur peine. C'est de leur prendre la main et juste leur dire quand on sera là, quand vous voudrez en parler, quand vous sentirez la force de pouvoir le faire. C'est d'être présent. C'est plus que des mots, c'est la présence.
Quand vous dites l'horreur, c'était quoi l'horreur?
C'est de voir des enfants qui étaient complètement déchiquetés parce qu'ils avaient marché sur une mine antipersonnelle. C'était de voir des femmes complètement mutilées parce qu'elles avaient essayé d'accoucher et que ça s'était mal passé parce qu'elles étaient du côté serbe. Et que c'est de voir des femmes qui ne savaient pas ce qui arrivait à leur père, leur frère, leur mari. C'était tout ça. La guerre est une horreur. Et là, c'était une guerre fratricide. Et je vous avoue honnêtement que je n'étais pas très fière d'être croate plus parce que... autant les Croates que les Serbes n'ont pas joué un rôle très reluisant dans tout ça.
Il n'y avait personne qui était aussi...
Non.
Bon, il y a un?
Non, pas du tout.
Il n'y avait pas de bon camp, comme on dit?
Non, absolument pas.
Vous repartez, vous revenez à Montréal. J'ai vraiment dit que c'est vraiment ici, puis c'est vrai. Hein.
Tout à fait.
Et là, vous donnez la main, là, vous avez donné la main à un peu votre peuple, la moitié de vous-même. Et là, vous entraidez les petits frères des pauvres.
Oui.
Ça arrive comment? Parce que c'est...
Ça a été une belle découverte. Je suis arrivée au Québec et il y avait une annonce et j'ai répondu. Et les petits frères ont eu beaucoup de courage à embaucher une jeune qui revenait de l'étranger, qui n'avait pas d'expérience du tout dans le monde communautaire à Montréal. Et le fondateur des petits frères, Armand Marquiset, avait vraiment cette vision que les personnes les plus isolées, les très âgées, les 75 ans et plus, méritaient qu'on puisse leur accorder une famille. Et lorsque j'étais en Bosnie, justement, on avait un programme pour les personnes âgées, seules, qui vivaient dans des tours communistes, c'est comme ça, et qui ne pouvaient pas Il n'y a pas d'eau courante, plus d'électricité, aller chercher l'eau, monter les 10 étages. Ça m'a beaucoup frappée, beaucoup touchée que lui, c'était dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait créé les Petits Frères. Et donc, moi, c'était un peu dans ce même esprit. C'est une organisation formidable maintenant, qui a un point de chute dans plusieurs villes à travers le Québec et qui est présente en France, au Mexique, dans plusieurs pays à travers le monde.
Et comment est votre relation, justement, avec ces personnes-là, les personnes âgées? Comment est votre communion, tous les deux?
Je vous dirais que ça se passe beaucoup par le toucher aussi, les personnes âgées. Ils ont besoin de nous prendre la main, nous regarder dans les yeux. Chez les Petits Frères, il y en a beaucoup qui sont atteints de déficit cognitif. Malheureusement, avec l'âge, c'est une réalité. Donc souvent, c'est dans la sensation, c'est dans le goûter, c'est partager des moments privilégiés, des repas, que ce soit le jour de Noël. On travaillait le jour de Noël, on travaille le jour de l'an.
Ça revient, puis c'est extraordinaire ce que vous faites, Anna, parce que la plupart des gens, malheureusement, on est une société où c'est vraiment chacun pour soi, le moi. Et souvent, ils sont seuls. Ils sont très seuls, surtout cette journée-là, c'est épouvantable.
Hein. Alors, c'est d'être là au moment où est-ce que les familles sont là, et c'est ce que les Petits Frères, avec tous ces bénévoles qui sont jumelés à des personnes âgées, font de façon régulière.
Alors, vous lâchez toujours pas les femmes sont très présentes dans votre vie, il y en a chez les Petits Frères, bien sûr.
Et la majorité sont des femmes, 90% des femmes seules.
Voilà. Et là, vous allez au Y?
Tout à fait.
Et quelles sont vos fonctions à ce moment-là?
Donc, je dirige le Y des femmes, qui a été fondé en 1875, donc qui est une institution à Montréal qui travaille sur tous les volets en lien avec les femmes. Donc, on rejoint les femmes et leurs enfants, que ce soit les femmes qui vivent une période difficile, donc tout un hébergement, un accueil social, avec aussi des logements pour ce qu'on appelle la deuxième ligne, s'assurer que ces femmes qui vivent des situations difficiles, problèmes de toxico, de violence conjugale, puissent avoir un lieu sécuritaire. Mmh. Mais c'est aussi des programmes d'alphabétisation pour s'assurer que les nouvelles arrivantes puissent apprendre.
Faites énormément pour
donc, le Y des femmes est très présent dans la communauté. Il travaille avec un ensemble d'organismes dans les différents quartiers.
Alors, vous avez tellement... On aurait 3-4 heures. Il y a les études qui ne vous lâchent pas quand même. Hein, parce que je pense que vous êtes du genre à avoir les études en même temps que le travail, comme si ce n'était pas assez. Il y a, évidemment, en 97, vous retrouvez à suivre des études supérieures à McGill. Puis après, il y a un petit saut, un beau saut d'ailleurs, à la Sorbonne en 2007.
Oui, j'aime apprendre et j'aime apprendre constamment. Et je pense que c'est une façon de se développer et de voir si on ne peut pas voler des bonnes idées ailleurs. Alors, j'aime beaucoup voir ce que les autres font pour pouvoir apprendre davantage et voir qu'est-ce qu'on peut appliquer à soi-même ou à l'organisation dans laquelle on travaille.
Et là, vous politisez un petit peu vous peaufinez votre discours un peu politique parce qu'il y a des études de politique aussi.
Oui, la science politique, mais c'est surtout lié juste à tous les fondements liés au développement et développement des communautés, développement international, action humanitaire.
Alors, cette fois-ci, c'est vous qui l'avez choisi, cette pièce, Vincent Vallière, On va s'aimer encore. Pourquoi cette chanson?
Ah, c'est ma famille, c'est mes enfants qui me la font jouer régulièrement parce que ça nous rappelle aussi l'importance, les priorités et que finalement, c'est l'amour qui dure et qui nous fait passer à travers les moments les plus difficiles.
On revient et on reviendra avec vos fonctions actuelles à Centraide.
Quand on verra dans le miroir nos faces ridées pleines d'histoires, quand on en aura moins de vin qu'on en a maintenant, quand on aura enfin du temps et qu'on vivra tranquillement, quand la maison sera payée, qu'il restera plus rien qu'à s'aimer, on va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Quand nos nos enfants vont partir quand on les aura vus grandir. Quand ce sera leur tour de choisir, leur tour de bâtir. Quand nos têtes seront blanches, qu'on aura de l'expérience. Quand plus personne va nous attendre, qu'il restera plus rien qu'à s'éprendre. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au travers des bons coups. Quand toutes les bombes auront sauté, que la paix sera là pour rester. Quand sans boussole, sans plan, on partira au gré du vent. Quand on lèvera les voiles devenues de la poussière d'étoiles. On va s'aimer encore après nos bons coups, après nos déboires. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au bout de nos doutes, au bout de la route. Au-delà de la mort, on va s'aimer encore au bout du doute, au bout de la route. Au-delà de la mort, on va s'aimer.
Alors, on poursuit notre route, notre parcours avec vous. Et puis, vous bougez beaucoup, vous étudiez à la Sorbonne, en même temps qu'il y a le travail. Et il y a aussi, on va parler de l'aventure de One Drop. Ça se passe comment et avec One Drop?
Mais je dirais que pendant que j'étais aux études en France, je travaillais à Amnesty International et ça m'a vraiment révélé toute la question des droits humains. Alors, quand je me suis joint à One Drop, l'accès à l'eau potable, c'est un droit fondamental. Et pour nous, l'eau est un outil de développement. Alors, l'eau était un instrument pour pouvoir veiller à lutter contre la pauvreté de façon globale. Alors, l'eau pour manger, l'eau pour s'habiller, pour se laver, l'eau pour cultiver. Alors, l'eau était un prétexte pour pouvoir développer. Et ça a été une merveilleuse aventure que de travailler avec Guy Laliberté et toute l'équipe du Cirque du Soleil. Beaucoup voyager à cette époque-là, parce que nos projets étaient en Amérique centrale, en Inde, en Haïti, en Afrique de l'Ouest. Donc, ça a été une très belle aventure.
Alors, là, on est vraiment rendu dans le vif du sujet. Ce sont vos fonctions. Ça n'avait pas longtemps, en 2013 quand même. Ça arrive comment avec Centraide? Est-ce qu'ils viennent vous chercher? Là, vous déposez vos valises à Montréal, parce qu'à chaque fois, c'est toujours le port d'attache, finalement. C'est Montréal.
Oui, et puis Centraide, à quelque part, j'ai découvert Centraide lorsque j'étais au des femmes, parce que le Y des femmes est appuyé par Centraide. Donc, je sais et je savais très bien s'il y avait une organisation qui avait, a et va continuer à avoir un impact majeur en termes de développement social de notre grande communauté, c'est Centraide du Grand Montréal. Moi, j'ai deux choses dans mon cœur. Évidemment, toutes les questions internationales sont chères à moi à cause de la moitié de cette entité auquel vous faisiez référence, mais tout ce qui est local aussi, c'est tout aussi important pour moi.
Et comment? Oui. Et comment? Oui.
Alors, c'est ça, la mission de Centraide, finalement, c'est la convergence de tous mes intérêts. La question des droits, parce que Centraide, on vient répondre à l'article qui dit que toute personne a le droit au logement, à se nourrir, à la santé. C'est aussi le fait qu'on travaille avec un réseau fabuleux d'organismes communautaires qui sont dans les quartiers et qui, donc, répondent aux besoins et ils sont ancrés dans ces quartiers-là. Oui, donc, oui. On vient à la base. C'est à partir de ce qu'on appelle dans le langage « grassroots », donc ces organisations-là qui s'adaptent facilement en fonction des besoins, qui ont une flexibilité, qui ont une générosité en termes d'investissement, qui s'appuient sur 57 000 bénévoles pour pouvoir accomplir leur mission. Donc, Centraide, c'est le cumul, c'est la convergence de tout ça.
Alors, ces 370 organismes que vous aidez, on parle d'un demi-million de personnes, c'est énorme.
Il faut savoir, dans la grande région de Montréal, il y a une personne sur six qui vit sous le seuil de la pauvreté. Mmh. Et Centraide, via son réseau d'organismes, vient rejoindre une personne sur sept. Sur l'île de Montréal, spécifiquement, c'est 22,8% qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Montréal est la ville la plus pauvre au Canada. Alors, on a des enjeux.
C'est fou, hein? Ça, c'est très important de le dire parce qu'on ne l'entend pas. Et on dirait que la pauvreté, on essaye de la cacher. On dit mais non. Mais là, vous le dites. C'est ici, Montréal, la plus pauvre.
Mais
c'est
pourtant,
pas rien, là, ce que vous venez de dire.
Mais pourtant, on a une vie, une qualité de vie sur l'île de Montréal qui est assez exceptionnelle. On peut se promener dans tous les quartiers sans crainte pour sa sécurité. Mmh. Et ça, c'est parce que les gens ont de l'espoir. Ça, c'est parce qu'ils ont des organismes qui sont présents, qui les appuient, qui les accompagnent pour passer à travers les moments difficiles. Souvent, la pauvreté, c'est un moment de transition. Mais pour certaines personnes qui, de par leurs conditions physiques, sont les personnes handicapées, les personnes qui ont une déficience intellectuelle, les personnes âgées, vont vivre dans la pauvreté.
Oui, oui.
Le chèque d'aide sociale, malheureusement, il est sous le seuil de la pauvreté.
Ben oui, il n'y a rien, le chèque, là.
Alors,
c'est dur, ça.
Alors, il faut atténuer les effets de la pauvreté sur ces personnes-là, leur donner la dignité. Et j'ai rencontré Raymond cet été qui, via la maison de quartier de Villeray, il a une légère déficience intellectuelle, il vit chez lui, il est suffisamment autonome, il a 50 ans. Mais à chaque semaine, il participe à une activité de cuisine collective où est-ce qu'il prépare avec d'autres hommes qui ont relativement les mêmes enjeux que lui, des repas. Et il repart avec ses 10 repas qu'il a fait lui-même. Donc, en termes d'autonomie, de fierté, de dignité, c'est là. Et il a une qualité nutritionnelle parce que c'est des bons repas. Et il a payé 20 $. Donc, il a contribué à pouvoir participer à cette activité-là. Donc, c'est ça, Centraide. C'est permettre à tous ces organismes-là de remplir une mission et de rejoindre des gens isolés qui sont marginalisés quelquefois.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est important que vous le dites aussi, la faim, elle est ici. La faim est à Montréal. La faim, c'est des enfants qui ne mangent pas 3 repas par jour. La pauvreté, elle est là, elle est à nos portes, elle est présente. Et c'est extrêmement important, votre travail, ce que vous faites. Et ce qui est bien aussi au niveau de Centraide, c'est que vous aidez les organismes et c'est récurrent. C'est-à-dire que, parce qu'on le sait, c'est difficile d'aller chercher des subventions, d'aller toujours quémander. Et Centraide à ça. C'est-à-dire que ces organismes qui sont bien implantés ne sont pas obligés à chaque année d'aller cogner à la porte, de se faire reconnaître parce qu'ils font un travail merveilleux.
Absolument.
Mais c'est aussi difficile. Je pense qu'il y a eu des coupures, mais minimes, 2%, vous m'avez dit.
Oui, la campagne de l'an dernier n'a pas atteint les résultats qu'on escomptait. Mais c'est certain que pour les organismes, faire partie du réseau de Centraide, comme on a un engagement à tous les 3 ans, on va les évaluer, on va s'assurer qu'ils agissent bien, que leurs interventions sont pertinentes, qu'il y a une saine gestion et une saine gouvernance. Puis on les encourage beaucoup à travailler ensemble. Donc, la collaboration, la complémentarité, c'est quelque chose d'important pour nous. Mais pour des organismes, par exemple, les organismes de défense des droits, surtout les organismes de défense des droits pour les personnes handicapées, par exemple, ben, notre contribution peut représenter 80-90% de leur budget total.
Du fonctionnement.
Et voilà. Alors, il y a plusieurs organismes. En général, on représente 25% de leur budget, mais plusieurs organismes dépendent beaucoup de Centraide parce que c'est pas le secteur privé ou c'est pas le grand public qui va les appuyer financièrement et leur mission est essentielle pour notre communauté. Alors, Centraide existe pour éviter que les 360 organismes qu'on appuie aillent quêter, comme vous
ben
le dites
oui,
si bien.
Oui, je vais le redire. Et, parce que et donc, c'est pas normal déjà de quêter pour avoir une vie décente, mais là, quêter à chaque fois,
voilà.
c'est
Donc, on c'est optimise terrible. Les dollars récoltés. Et si jamais Centraide n'était pas là, parce que c'est une éventualité, ben, ça coûterait beaucoup plus cher récolter tous ces fonds-là et permettre à ces organismes-là de poursuivre leur mission.
Mm-hmm. Alors, vous allez aussi aider, j'ai vu, parce que c'est Laval. Parce que ça aussi, on en parle, on fait juste en parler, mais il y a énormément de pauvreté, énormément de besoins à Laval aussi. Il y a une campagne qui est en marche, là.
Oui, donc on couvre l'île Montréal, Laval et la Rive-Sud. Donc sur l'île, je vous ai dit, le taux de pauvreté, c'est 22,8 %. À Laval, c'est 10 % et sur la Rive-Sud, c'est 11 %. À Laval, il y a des poches de pauvreté importantes à Chomedey, à Pontvieux et la Vallée-Rapide. Et sur la Rive-Sud, dans le Vieux-Longueuil, dans le Ville-le-Moine. Alors, il y a maintenant en banlieue des réalités de pauvreté qui sont présentes aussi.
Vos besoins, si vous aviez une baguette magique.
Oh mon Dieu, mais ça serait définitivement qu'il y ait un arbre avec des dollars dedans et que ça pousse et que ça soit éternel. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est toute la question de la solidarité. Il faut savoir que c'est 23 000 personnes bénévoles qui, dans 1500 entreprises, veillent à solliciter leurs collègues de travail.
Et des bénévoles merveilleux, d'ailleurs.
Excellent. Ouais. Et c'est 57 000 bénévoles qui, dans les organismes, donnent de leur temps pour venir en appui aux communautés plus vulnérables. Donc, c'est une belle solidarité. Mmh. Et ça, je pense que c'est... Mon souhait, c'est que cela reste, et que ça continue encore plus fort.
Alors, on fait une petite pause musicale et on revient avec le questionnaire. La partie la plus facile, un petit peu pour l'invité, mais quand même, on se dévoile là, au jeu questionnaire, mais c'est un petit peu plus reposant pour vous. Quelles sont les personnes qui vous ont inspiré?
J'ai beaucoup d'admiration pour Bernard Kouchner, qui a fondé Médecins sans frontières et Médecins du monde. De par sa vision aussi, hein, c'est lui qui avait amené sur la table le droit d'ingérence, qui s'est transformé en responsabilité de protéger. J'ai eu le plaisir de le rencontrer à quelques reprises et c'est quelqu'un qui, certes, peut provoquer, mais à quelque part, il fait bouger les choses.
Il a fait des beaux discours aussi.
Absolument.
Vos mentors?
Mais moi, j'ai eu le plaisir et la chance d'avoir des femmes tout au cours de ma carrière qui m'ont accompagnée. Des personnes comme Louise Maillot, qui est juge à la retraite à la Cour d'appel du Québec. Louise Roy, qui est chancelière à l'Université de Montréal. Greta Chambers, qui m'a conseillée. Alors, je me suis beaucoup appuyée sur un réseau de femmes très, très engagées et très ouvertes à appuyer les plus jeunes.
Vos livres qui vous ont inspiré, ou bien un livre de chevet, ou un livre qui est juste à côté de votre livre, vous dites celui-là, je dois le lire, ou celui-là, vous le lisez, vous faites quelques pages.
Je dirais qu'une collection de livres qui m'a marquée à l'adolescence et qui est restée dans mon esprit, c'est tout ce que Émile Zola a écrit. Sur justement les familles pauvres, comment les gens peuvent s'en sortir, les difficultés des travailleurs.
C'est vrai, les pauvres,
alors c'est quelque chose qui est très présent dans mon esprit.
Donc,
encore
la littérature d'Émile Zola.
Oui.
Vos artistes préférés?
J'aime beaucoup Youssou N'Dour. J'ai eu le plaisir de le rencontrer à quelques reprises. J'adore sa musique, son ouverture sur le monde avec toutes les personnes avec qui il a travaillé. Personne engagée, hein, qui a fait aussi de la politique au Sénégal.
Tout à fait.
Mais qui a travaillé justement, je l'ai rencontré dans le cadre d'Amnesty International sur toute la question d'excision. Il s'est vraiment engagé sur différents dossiers, une personne remarquable.
Et puis, vos villes préférées, parce que là, vous avez trois passeports, vous en avez, vous avez voyagé, vous avez fait. Alors là, on est vraiment,
mais je veux vraiment
à l'écoute. Là.
Inviter les gens à aller découvrir des pays, des villes en Croatie, Dubrovnik, c'est une perle, mais aussi aller à Pula, en Istrie, qui est merveilleux. Et il faut aller en Afrique. Il y a des villes merveilleuses. À Abidjan, maintenant qu'il n'y a plus de conflit, c'est sécuritaire d'y aller, d'aller à Dakar. Ce sont des perles, il faut les découvrir. Il faut encourager... avec nos dollars touristiques, économiques, ces pays en voie de développement.
Alors, Arthur, merci beaucoup, vos projets. Donc, la campagne, on en parlait, la campagne de Laval, évidemment, vous avez votre campagne à Montréal. Peut-être en terminant, donner le numéro de téléphone et le site Internet, c'est important pour aider Centraide.
Alors, je vous invite les gens, ils peuvent venir faire un don sur notre site Internet, centraide-mtl.org, ou bien nous rejoindre au 514-288-1261.
Merci, c'était un plaisir de vous recevoir.
Ça m'a fait plaisir, Mme Stanké. Merci beaucoup.
Merci
à vous et à vos auditeurs.
Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir été à l'écoute. Et à la réalisation, c'était Kamal Salifou, Christiane Campagna signe la recherche de cette émission, Yannick Roberge aux soins musicaux et aux médias sociaux, Claudia Benoît. On se retrouve la semaine prochaine et prenez soin de vous. Bye bye.